Alors, pour tous les emprunteurs, Pierre-Yves, voilà une bonne nouvelle. On ne touche pas au taux directeur au Canada à 1,75.
Et il y avait justement un article dans Le Devoir aujourd'hui qui parlait de ce côté d'insolvabilité des Canadiens ou des Québécois à 200 $ près pour la moitié d'entre nous. Donc, ça fait en sorte que la baisse ou la maintien plutôt des taux directeurs au niveau actuel nous permet de penser que nos dettes variables, tout comme notre prêt hypothécaire variable, vont rester stables et au niveau des taux. Et ça nous amène aussi à analyser les taux qu'on peut négocier. Je regardais les taux hypothécaires des courtiers hypothécaires. Sur 5 ans fixes, tu peux négocier 3,04 et sur 5 ans variables, 2,95. Ça te démontre comment la courbe est en bon français flat, c'est-à-dire que il n'y a pas de prime sur les obligations, sur le taux basé sur les obligations. Donc, dans le moment, on est au neutre, là. Donc, dans le moment, les gens sont incertains, mais chose certaine, quand on regarde la bourse, qui est à un niveau record, encore le S&P 500 aujourd'hui, là, oui, peut-être pas beaucoup de variations, mais depuis le début de l'année, 17 % de gains. Donc, on a des taux faibles qui se maintiennent à des taux bas, on a la bourse élevée, on se touche, ça va, on se pince, là, on se dit, coudonc. Qu'est-ce qui va nous frapper bientôt? Mais pour l'instant, c'est rassurant.
Oui, c'est vrai, c'est pas mal stable. Hein?
Oui, écoute, stable au niveau de la bourse, c'est un peu plafonné, je dirais. Oui, je vois pas comment ça peut encore prendre un autre 10 % sur la prochaine année.
Non, mais je parlais surtout sur le loyer de l'argent. Là.
Ah oui, le coût de l'argent, c'est sûr.
Non, mais ça fait combien de temps qu'on nous dit, on n'est pas loin là, d'une explosion, le taux directeur va monter, c'est sûr, c'est certain, ça va partir.
Ils l'ont monté quand même souvent dans les dernières années, depuis 2017,
ouais.
Monté souvent, mais on nous disait, écoutez, préparez-vous à du taux d'équilibre. Donc, préparez-vous à un taux directeur à 2,5, ce qui pousse, vous, votre prêt beaucoup plus loin parce qu'il y a une prime de risque des banques et de vous-même. Et là, pour l'instant, on reste à 1,75 au Canada.
Alors, résultat du premier trimestre chez le géant Boeing, évidemment, qui a été grandement affecté par le retrait des avions 737 MAX 8.
Écoute, il y a plusieurs facteurs, en fait. Le premier, c'est de se dire, quelle est la proportion de clients qui vont créer un effet domino. C'est-à-dire, même si on réussissait chez Boeing à rétablir les avions, à faire des tests, on dit qu'on est rendu à plus de 130 vols d'essai, à arranger le logiciel et s'assurer que ce soit extrêmement sécuritaire et redonner des statistiques enviables à l'avion, il y a toujours une portion de la clientèle qui va dire « Ah, je préfère pas prendre de chance, j'aimerais ça prendre un transporteur qui n'a pas des Boeing 737 MAX 8. » Alors, d'un autre côté, tu vois les transporteurs qui vont avoir la réaction. Est-ce qu'on va retarder des commandes? Est-ce qu'on va décaler des expansions de commandes au cas où pour attendre ce qui va se passer? Et est-ce qu'il y a d'autres, comme Airbus, qui vont profiter de cette incertitude pour aller chercher de la clientèle? Parce que beaucoup de transporteurs vont chercher du Boeing en se disant, on a déjà du Boeing, l'entretien, tout ça, une économie d'échelle, avoir les mêmes modèles, les mêmes avions. Donc, il y avait ça davantage. Et puis là, on se dit, écoutez, il y a eu un impact qui va être quantifié aujourd'hui à près d'un milliard en calculant les retards, puis les coûts de développement, les tests, puis les coûts de fabrication. Et l'action, qui était à 440 $ en fin février 2019, est rendue à 374. Donc, on a quand même une baisse par rapport au plafond, au sommet. Mais malgré tout, depuis le début de l'année, on a quand même fait 16 % malgré tout ça. Et les états financiers sont quand même relativement en santé, là. 2,1 milliards de bénéfices nets pour des revenus totaux de près de 23 milliards.
Ben, ils ont livré quand même beaucoup moins d'avions cette année, ce printemps, dans le premier trimestre que l'année passée.
Ça. Évidemment, par contre, Paul, l'avion, tu sais, c'est l'avancement des travaux. Hein. Il y a des avions, des contrats qui sont signés, mais c'est à la livraison que le produit est constaté. Et c'est constaté au fur et à mesure que l'avion est construit selon un certain pourcentage. Donc, on va voir l'impact réel, peut-être dans quelques mois, total sur les états financiers.
Oui, ça, c'est vrai. Les compagnies aériennes payent la facture au moment où ils ont la livraison.
Mais il y a surtout pas au niveau comptable, la constatation des revenus se fait pas nécessairement à la livraison ni à la commande, mais peut-être selon un avancement des travaux et selon les possibilités de réalisation des produits.
Alors, nous allons terminer avec Lululemon qui se lance dans le marché de Nike.
Oui, on veut aller chercher les chaussures. On nous lance un plan quinquennal aujourd'hui devant des analystes. On dit, écoutez, on veut se lancer dans une croissance chez Lululemon. Lululemon, c'est la fameuse compagnie qui fait des pantalons plus type yoga, mais d'autres choses aussi, des pantalons de sport. Et puis, Il y a quelque chose à amener, par exemple. Quand je parle de Lululemon aux consommateurs, Lululemon, on nous dit souvent, écoute, Pierre-Yves, c'est un peu cher. Il commence à tirer mon élastique sur le prix versus la valeur que je reçois, parce que là, je vais aller sur Internet, il y a des pantalons ou chez Simons, puis tu sais, à un moment donné, payer un legging ce prix-là ou un pantalon de yoga ce prix-là, je vais aller là. Donc, tu vois, il y a cette affaire-là, mais là, on regarde les états financiers, ils nous disent, non, non, nous, on veut changer l'image des gens, on veut dans le Nike, dans l'Adidas, on veut aller dans les chaussures de sport, donc créer une marque. Mais dans la tête du consommateur qui est prêt à payer une grosse marge, il a besoin de valeur non seulement du bien, mais de valeur d'image. Alors, comment le Lululemon va réussir à créer une valeur d'image sur un type de soulier? Est-ce qu'on va aller dans des souliers vraiment sport, des souliers mode de vie? On va voir.
Des souliers de yoga, peut-être.
Mais quand on regarde les états financiers, le yoga, c'est pas beaucoup de rendement. Pas... Mais quand on regarde les états financiers, tu sais, t'as quand même un bon rendement au niveau du bénéfice. Là. T'as 484 millions pour l'année qui s'est amené en 2019 sur 3,3 milliards de ventes. Écoute, on est quand même dans de la guenille, là. Tu sais, de la guenille de luxe, mais on reste en guenille, c'est-à-dire des produits de vente. Donc, on a fait 81% de gain de l'action depuis un an. Donc, on veut encore de la croissance. On vise plus haut. L'action était à quoi? 162$ là, le 23 septembre. Il y a eu une chute par la suite. Et là, on est quand même en haut à 178$. Donc, c'est une action qui est extrêmement payante depuis 2017 pour les actionnaires. Là. Elle a plus que triplé. Mais maintenant, ça demeure une autre chose. Est-ce qu'on va être capable, avec la hausse des coûts fixes pour prévoir une expansion, d'aller chercher de la valeur? C'est-à-dire de convaincre le client qui achète du Lululemon pour une portion de sa consommation d'aller ailleurs, d'acheter des souliers. Tu sais, il y a une affaire en mode, Paul, qui est de ce temps-ci, en fait, qui existe depuis toujours, mais les vêtements coûtent tellement cher, les vêtements de marque, que les gens font des croisements. Par exemple, tu vas t'acheter un manteau de jeans à 600$, ou pas 600$, avec de cuir de 600$, mais tu vas mettre en dessous un t-shirt de 20$. Donc, tu vas faire un croisement de marque. Donc, est-ce que le consommateur, avec son taux d'endettement, est capable de donner encore plus d'argent à une compagnie comme celle-là, ou est-elle capable d'aller voler de la valeur à d'autres compagnies? C'est à suivre, mais la Guinée, c'est toujours une question de mode. Je peux parler de Mondetta, je peux te parler de
oui,
Burton.
Ben, c'est ça. Ben,
c'est cyclique. T'sais, à un moment donné, tu as une désaffection du client pour des
marques. Il faut avoir du flair quand même pour être là-dedans dans cette business.
Du flair et se renouveler toujours et faire croire au client
qu'il
a de la valeur de plus en plus. Ouais. Moi, je me ferais une association avec Paul Oud. Peut-être que ça fait augmenter les ventes.
Non, ben ça dépend. Il faudrait que je te propose un style.
Oui,
toi, je propose un style. Toi, Pierre-Yves, t'as ton style.
Oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas faire du yoga avec ma jambe. Je suis tellement pas flexible.
Non, pas du yoga, c'est pas ça que je dis. Mais là, maintenant, t'as créé un style. Les gens pourraient avoir, je sais pas moi, le goût d'avoir un modèle de vêtements Max Wien.
Avec des cheveux longs et pas trop cher.
Ouais,
ça fait pas avec le Lululemon.
Je porte un veston Giorgio Armani, mais avec des jeans déchirés.
Ah, c'est bon ça. Et des sous-vêtements Pierre-Yves Max Wien, pas chers, mais qui remplissent la fonction.
Salut, à demain.
Salut!